Vous écoutez France Culture.
C'est comme chaque jour l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc Boisset.
Et aujourd'hui, l'Iran, les sanctions économiques à propos de la politique occidentale à l'égard de l'Iran, donc avec votre invité Feridoun Khavand.
Donc, effectivement, qui est enseignant-chercheur à Paris. Descartes, Feridoun, bonjour.
Bonjour.
Alors, les sanctions économiques, elles peuvent évidemment être précédées ou complétées d'autres, diplomatiques, juridiques, militaires, etc. Le grand consommateur devant l'éternel de ces sanctions économiques, c'est bien sûr où ce sont les États-Unis. Les États, généralement, sont plus prudents, car individuellement ou collectivement, elles présentent ces sanctions économiques des inconvénients considérables. Elles sont très souvent inefficaces, contournées et contre-productives. Et puis, les grands classiques, c'est bien sûr les sanctions à l'égard de Cuba depuis les années 60, à l'égard de l'URSS ayant envahi l'Afghanistan, à l'égard du régime d'apartheid sud-africain, de la Libye de Kadhafi, de l'Irak de Saddam Hussein, de la Corée du Nord, donc à cause de son programme nucléaire militaire. Et puis on peut s'appuyer aussi sur les récents exemples iraniens. D'ailleurs, il y a eu une décision hier, merci toujours d'être en direct avec nous, Feridoun Khavand, et il y a une décision hier, vous m'avez dit tout à l'heure, donc de l'Union européenne à propos de l'Iran. Et puis aussi la question de la Birmanie, puisqu'il y a eu une visite du ministre français des Affaires étrangères en Birmanie, qui est pour une levée progressive des sanctions. Il y aura une décision attendue, une décision de l'Union européenne, avant le 30 avril. C'est ça, oui, avant le 30 avril, j'ai un petit doute, mais enfin, c'est ça, on va vérifier. Alors, ces sanctions économiques, Feridoun Khavand, comment les appréhender, comment les voir dans l'histoire récente?
Écoutez, en ce qui concerne l'Iran, nous savons que plusieurs sanctions ont été adoptées, notamment dans un premier temps par le Conseil de sécurité des Nations Unies en liaison avec le dossier nucléaire iranien. La dernière résolution, c'était celle de 1929 du juin 2010 et qui prenait des sanctions bancaires, financières et puis des sanctions relatives à la circulation des marchandises et des services. Cependant, les sanctions économiques les plus redoutables contre l'Iran ont été prises par les États-Unis et par l'Union européenne d'une manière unilatérale. Les États-Unis frappent en particulier les circuits bancaires et financiers de la République islamique, y compris et surtout des sanctions contre la Banque centrale iranienne qui ont déjà complètement désorganisé ces transactions internationales. Quant aux Européens, vous l'avez dit, hier, un accord de principe a été signé entre les membres de l'Union européenne pour introduire pour interdire les transactions avec la Banque centrale iranienne. Cependant, dans cet accord, ces transactions financières seront interdites pour toutes les rentrées d'argent qui permettraient le financement du programme nucléaire ou le commerce du pétrole. On voudrait, disons, épargner un peu la population. En ce qui concerne l'embargo pétrolier, certains détails devraient être encore négociés, mais en principe, l'accord sur ce sujet devrait être signé, disons, le lundi.
Alors justement, donc lundi prochain, et d'après ce que j'ai compris, pour être efficace, les sanctions donc de l'Union européenne sur l'embargo sur le pétrole mettraient un certain temps à être mises en œuvre. J'ai noté 6 mois de délai pour être efficace.
Exactement.
Pour être efficace. Ça veut dire qu'au fond, c'est quand même une leçon de ces sanctions. Elles ne changent pas radicalement la donne sur l'heure. Et en plus, elles sont toujours complexes à mettre en œuvre lorsqu'elles sont collectives. Et les spécialistes expliquent toujours que c'est très bien d'infliger des sanctions. Encore faut-il, surtout quand elles sont collectives, tout de suite se coordonner pour savoir comment les lever ou comment les alléger le moment venu, collectivement également. Surtout dans les démocraties où les opinions publiques réagissent différemment d'un pays à l'autre.
Tout à fait. Il y a d'abord le problème des opinions publiques qui ne veulent pas que la population iranienne souffre de ces sanctions, mais il y a aussi les questions relatives aux relations entre les pays occidentaux eux-mêmes et aussi avec leurs alliés asiatiques. Donc on voudrait maintenir des souplesses pour que, d'une part, des pays comme la Corée du Sud ou le Japon ne soient pas frappés par ces sanctions et, d'autre part, On voudrait également que les sanctions prises notamment dans le domaine pétrolier ne donnent pas lieu à une flambée du prix du pétrole qui pourrait, disons, finalement aboutir à une amélioration même de la situation financière iranienne profitant de la hausse du prix du pétrole. Donc il y a ces deux considérations et c'est pour cette raison que aussi bien les Américains que les Européens voudraient qu'il y ait des souplesses dans l'application de ces sanctions.
Est-ce que le fait que l'Iran vende du pétrole, ça c'est connu, mais qu'il en achète aussi beaucoup, parce que, si j'ai bien compris, ses capacités de raffinerie sont assez modestes, et donc il est obligé d'en acheter. Est-ce que le fait qu'il en vende et qu'il en achète est intéressant à prendre en compte dans l'affaire des sanctions économiques à l'égard de l'Iran ?
Écoutez, disons, vous savez que l'Iran est un importateur important de l'essence. Cependant, en raison des mesures prises récemment, les importations de l'essence ont été réduites. Ces mesures étaient liées aux réformes sur les subventions aux produits pétroliers, des subventions iraniennes concernant les problèmes pétroliers. Donc, ces réformes ont réduit un petit peu les importations. Cela étant dit, l'Iran a toujours besoin de l'essence, mais ce sont des pays comme notamment la Chine qui continue à exporter de l'essence vers l'Iran. Et d'ailleurs, la question chinoise est très importante à l'égard de ces sanctions parce que sans la collaboration étroite de la Chine dans l'application de ces sanctions, celles-ci ne seraient pas vraiment très très efficaces.
Oui, c'est ça, parce qu'on parle des États-Unis, on parle de l'Europe, mais en même temps, les grands clients de l'Iran ou d'autres pays de la région pétrolière, ce sont précisément les Japonais, les Sud-Coréens, les pays d'Asie du Sud-Est, la Chine, etc.
Donc, les Japonais et les Sud-Coréens apparemment ont l'intention d'accompagner l'Europe et les États-Unis dans l'application de ces sanctions. Reste la Chine. La Chine a négocié, le Premier ministre chinois était la semaine dernière en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, et apparemment les Chinois tentent d'obtenir des garanties de la part des pays arabes du Golfe Persique concernant leur approvisionnement en pétrole. Si le pétrole iranien n'arrive pas en Chine, est-ce que les pays arabes pourraient compenser cette lacune, et apparemment il semble que les Chinois aient obtenu des garanties de la part notamment de l'Arabie Saoudite qui a une capacité supplémentaire pour, disons, compenser une diminution de la production iranienne, une diminution des livraisons iraniennes.
Alors le cas iranien est évidemment complexe parce qu'il y a les sanctions ONU, les sanctions américaines, les sanctions Union Européenne, etc. Et puis en plus il y a des sanctions que finalement d'une certaine façon les États-Unis administrent à leurs propres alliés au travers, dans d'autres cas de figure souvent, au travers des fameuses lois extraterritoriales, c'est-à-dire que les États-Unis sanctionnent des sociétés par exemple européennes qui commerceraient avec l'Iran dans tel ou tel domaine.
Oui, effectivement. On peut dire qu'il y avait, il y a 3 ans, 4 ans, des tensions à ce sujet entre les Européens et les Américains, mais ces tensions n'existent plus dans la mesure où l'Europe, en ce moment, est même plus en avance, si vous voulez, dans le domaine des sanctions contre l'Iran, est en avance par rapport aux États-Unis. Et d'une certaine manière, on peut dire que la politique française à ce sujet est même d'une plus dure que celle appliquée par les États-Unis. À l'heure actuelle, la France en particulier joue un rôle extrêmement actif dans la mobilisation des Européens sur le dossier nucléaire iranien, parce que notamment la France estime que sans ces sanctions, Israël risque de frapper les installations militaires iraniennes dès cet été.
Et puis il y a quelque chose aussi à dire à propos des États-Unis, c'est que ça n'a pas empêché les États-Unis, toutes ces sanctions américaines contre l'Iran, de faire affaire avec l'Iran par filiales européennes ou sociétés européennes ou autres interposées.
Oui, effectivement, il y avait le détournement des sanctions, à la fois par les sociétés américaines, mais aussi par les sociétés européennes, et donc également, bien sûr, des sociétés asiatiques. Mais globalement, ces sanctions deviennent de plus en plus sévères et frappent sérieusement l'économie iranienne. On peut dire qu'à l'heure actuelle, disons depuis quelques mois, l'effet des sanctions est très sensible sur l'économie iranienne. Et de ce point de vue, c'est une nouvelle période extrêmement difficile qui s'ouvre pour l'avenir de l'économie de la République islamique.
Est-ce qu'on peut s'appuyer aussi sur le cas birman qui est d'actualité? Il y a une remarquable, en tout cas très évidente, ouverture politique en Birmanie. Et le ministre français des Affaires étrangères s'est prononcé récemment sur place pour une levée progressive des sanctions. Est-ce que finalement, la question qu'on se pose, elles sont souvent inutiles, mais quand elles sont utiles, c'est à très long terme. On le voit avec le cas iranien. Est-ce que finalement c'est une bonne médecine?
Ça dépend des pays. En ce qui concerne la Birmanie, apparemment, ça pourrait donner des résultats positifs. Cela étant dit, dans le cas iranien, il y avait des négociations de très longue durée depuis plusieurs années. Il y a eu des négociations avec l'Iran, donc d'abord sous la présidence de Mohammad Khatami, qui était très ouvert vis-à-vis des Occidentaux, mais par la suite, avec l'arrivée au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad, ces négociations ont été extrêmement difficiles. Et donc, je pense que plutôt la rigidité dans ce domaine provient du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, et c'est pour cette raison que dans le cas iranien, en liaison avec le dossier nucléaire, les négociations s'avèrent extrêmement difficiles, beaucoup plus difficiles que celles qui ont eu lieu avec la Birmanie. C'est un cas particulier et dans ce cas se posent toutes les questions stratégiques concernant l'avenir du Moyen-Orient et ce sont des négociations extrêmement sensibles.
Je me rappelle d'ailleurs dans le cas birman, il y a quelques années, un bon nombre d'années, que les Européens n'étaient pas d'accord parce que d'un côté, il y a les Allemands et les Français qui faisaient affaire avec la Birmanie, notamment dans le domaine pétrolier, justement. Et puis, de l'autre, il y avait un certain nombre d'autres pays européens qui n'étaient pas du tout, qui étaient au contraire très allants pour sanctionner la Birmanie.
Oui, effectivement. Et en particulier, la société Total qui était visée. Mais je reviens de nouveau à la question iranienne. Je pense qu'il y avait quand même, de la part de la communauté internationale et de la part des pays européens, ainsi que des Américains, d'une certaine manière, notamment après Obama, il y avait une grande souplesse vis-à-vis de l'Iran et des propositions très intéressantes faites à la République islamique. Cela étant dit, apparemment, la République islamique a ses propres projets, ses propres programmes qui ne sont pas forcément ceux de la communauté internationale. Voilà. Et le responsable principal dans ce domaine, à mon avis, c'est plutôt la République islamique.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup de cet éclairage. FranceCulture.fr pour écouter l'émission durant 30 jours. La télécharger le jour même, celle du vendredi reste en place pour le téléchargement le samedi et le dimanche.
Et oui, parce que demain c'est samedi et après-demain c'est dimanche. Voilà, donc passez une bonne fin de semaine à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, les programmes de votre matinée.